Bonjour et bienvenue à En Action, notre podcast sur l'activité physique et la santé. Mon nom, c'est Daniel Rioux, votre hôte. Aujourd'hui, on va discuter de préparation physique, du rôle du kinésiologue dans la préparation physique. Alors, on reçoit comme invité Charles Castonguay. Bonjour, Charles.
Salut, Daniel.
Comment ça va?
Ça va super bien, super bien. Il fait beau, il fait frette, mais il fait beau. Fait qu'on est bien content.
Excellent. Mais Charles, t'es préparateur physique à temps plein pour Excellence sportive Québec-Lévis. Peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours et de ce qui t'a amené à pratiquer ce métier-là?
Oui, dans le fond, moi, j'ai fait mon bac en kinésiologie à l'Université Laval. J'ai fini mon bac en 2010. Puis ensuite, j'ai fait ma maîtrise. Puis je suis rentré avec ESQL, je dirais, pas mal en 2010, qui s'appelait à ce moment-là le Conseil de sport de haut niveau de Québec. Assez long comme nom. Puis là, c'est rendu Excellence sportive Québec-Lévis.
Ça prend raccourci.
Oui, c'est ça. Ouais. Je peux t'expliquer un peu le concept d'Excellence sportive Québec-Lévis. Là, dans le fond, Excellence sportive Québec-Lévis, c'est une cellule de l'Institut national du sport de Montréal qui, eux, reçoivent vraiment les subventions gouvernementales pour le sport, pour les athlètes de haut niveau. Donc, l'INS à Montréal qui donne à SQL un petit peu l'argent des athlètes de la région de Québec, Lévis. Et dans le fond, SQL, moi, m'embauche comme kinésiologue pour travailler avec ces athlètes-là à temps plein. Et dans le fond, j'ai fait mon bac en kin. Ensuite, je me suis fait accréditer justement par Excellence sportive Québec-Lévis dans le temps. J'ai fait ma maîtrise là, en kinésiologie, en recherche sur performance sportive après. Fait que, ce qui m'a amené à faire ça, là, je te dirais... Au départ, c'est vraiment par curiosité par rapport au sport, parce que au départ, je voulais faire un peu de médecine, je ne savais pas trop, mais je faisais beaucoup de sport déjà quand j'étais jeune, puis ça m'attirait quand même beaucoup la science du sport, la kinésiologie, fait que j'ai décidé d'aller là-dedans un petit peu aveuglément. J'ai pogné la piqûre, là, vraiment, ça m'a plu. C'est un super beau métier, on travaille avec des gens qui sont super intéressants. En tout cas, pour moi, je suis plus avec les sportifs, fait que j'aime ça, travailler avec eux, c'est vraiment le fun. Puis, dans le fond, c'est ça, j'ai commencé avec le Centre Pierre-Harvey en ski de fond au départ.
Ouais.
Ensuite, avec une équipe de taekwondo aussi de très haut niveau. Puis j'ai fait la préparation physique, la kinésiologie avec eux là, le ski de fond, je fais toujours. Le taekwondo, je fais moins maintenant, mais le ski de fond, je suis toujours avec eux. Là, fait que ça fait au moins une quinzaine d'années là, déjà que je suis préparateur et kinésiologue pour eux. Puis j'ai suivi beaucoup dans les compétitions à travers le monde. Là, fait que, je te dirais que je suis tombé un peu dans le ski de fond par hasard parce qu'il y a un stage à ce moment-là qui s'ouvrait. Puis ensuite, il y a un poste qui s'est ouvert avec eux comme kinésiologue. Fait que je suis tombé un peu là-dedans par hasard. Mais après ça, ça a été une histoire d'amour avec le ski de fond. Je te dirais, depuis ce temps-là, j'en fais énormément. Puis c'est devenu ma spécialité en kinésiologie, je te dirais. Là. Le sport d'endurance et le ski de fond en particulier.
Ouais. Mais tu n'en faisais pas, avant de faire ton stage là-bas, tu ne faisais pas vraiment de ski de fond?
Non, c'est ça qui est drôle, en fait. J'en faisais, tu sais, je mettais des skis classiques, j'allais regarder les oiseaux dans le bois, là, c'était pas mal. Ouais. mon expérience de ski de fond, là, tu sais, j'étais un bon coureur à ce moment-là, mais
ouais.
L'hiver, je faisais du canot à glace,
ouais.
Je courais aussi, fait que des fois, tu sais, on manque de temps, on fait pas d'autres sports, parce que quand t'as déjà deux, trois sports, t'en fais moins. Puis là, en fait, eux, ils m'ont amené à en faire plus, parce qu'ils ont commencé à m'amener dans leur voyage aussi. Puis là, quand tu te ramasses dans les Alpes, dans un beau centre de ski, ben là, tu veux aller skier puis tu veux faire la même chose qu'eux. Puis eux autres, ils te forcent à skier puis ils t'enseignent la technique, les entraîneurs. Fait que là, tu deviens de meilleur en meilleur. Puis finalement, tu deviens un bon skieur. Ça prend beaucoup de patience pour devenir un bon skieur de fond. Là, j'avertis les gens. Mais c'est quand tu es rendu à un niveau technique qui est quand même assez élevé, c'est le plus beau sport au monde d'hiver, on va dire.
Vraiment cool. Mais justement, ça me fait penser, toi, tu as fait des voyages comme préparateur physique avec l'équipe de ski de fond. C'est quoi, mettons, la différence dans la préparation, mais aussi pendant les voyages, entre, mettons, ton rôle à toi puis le rôle de l'entraîneur de l'équipe de ski de fond?
Ben, en fait, là, je te dirais que le kinésiologue, le préparateur physique, en premier, son rôle, le nom le dit, là, c'est préparateur physique. Fait qu'en sport d'endurance, la préparation physique, c'est un peu plus complémentaire que dans les sports de puissance. Fait qu'en sport d'endurance, ça va se limiter, je te dirais, à la musculation. Fait que tout ce qui est en salle, la planification de l'entraînement en salle, la planification aussi de l'entraînement pour prévention des blessures, ça peut inclure aussi un petit peu d'évaluation fonctionnelle, regarder nos athlètes bouger, leur prescrire des bons, justement, des bons exercices de prévention de blessures. Donc ça, c'est la partie préparation physique. Puis ça, ça se fait, là, je te dirais, pour un athlète de ski de fond, là, la grosse partie se fait de avril jusqu'à décembre, où on va vraiment builder là, notre progression. Au début, on travaille les bases, ensuite, on travaille la force max, ouais. Après ça, on va travailler la puissance, etc., etc. Fait que ça, c'est le plus gros rôle du préparateur physique. Puis durant l'hiver, ben, on est là pour faire des séances de maintenance, réparer un petit peu des bobos avec eux, faire des séances sur la route un peu avec eux. Ce qui m'a amené à voyager en premier avec le ski de fond, justement, c'est suivre un petit peu Alex, suivre le groupe du centre provincial Pierre-Harvé pour faire la préparation physique, mais aussi pour les aider dans les tâches quotidiennes, de juste driver les athlètes au site de compétition, ouais. Les aider quand ils sont dans la salle de gym parce qu'ils font une ou deux séances par semaine quand même, ouais. Aider même pour farter les skis, ce que je ne connaissais absolument pas avant que j'ai appris sur le tas, mais qui s'est développé avec les années, je te dirais. Et dans le fond, le rôle de l'entraîneur à ce moment-là, lui, c'est vraiment là, tout ce qui est développement qu'on appelle des filières énergétiques. Fait que c'est lui qui va faire un peu plus le plan au niveau de tout ce qui est volume d'entraînement, zone 1, la planification des séances d'intensité, aussi la planification de la technique de l'athlète, dans le fond, les corrections techniques qu'il va avoir dans son ski de fond. Ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai commencé, je ne connaissais pas du tout le ski, j'ai développé une expertise là-dedans au bout de 5 ans, j'ai fait même mon projet de maîtrise avec ça. Puis, je suis devenu entraîneur aussi en ski de fond. Fait que là, j'étais le préparateur physique et j'étais l'entraîneur. Fait qu'à la fois, je faisais tout ce qui était en salle, en musculation, en prévention de blessures. Tout le lien avec les physios, les médecins, c'est moi qui faisais ça. J'étais un peu le chef de l'équipe de soutien intégré, on va dire. Là. Puis ensuite, de l'autre côté, j'étais aussi l'entraîneur. Fait que je faisais aussi les plans annuels d'entraînement, de volume, de tout ça. Je faisais aussi de la technique avec les athlètes sur neige. Fait que j'ai eu les deux chapeaux durant plein d'années. Fait que pour, mettons, le groupe, c'était 10 athlètes. Ben, moi, je pouvais être l'entraîneur de 5 athlètes. Mais j'étais préparateur physique des 10 athlètes.
Je comprends.
Je faisais le plan juste de cardio, on va dire, là, de 5 athlètes, mais tout le groupe, c'est moi qui le voyais en préparation physique. Fait que c'est un peu ça, je te dirais, la différence entre les deux. Quand on passe dans les sports de puissance un peu plus, ben le kin, le préparateur physique, peut avoir un rôle beaucoup plus grand. Fait que là, dans le fond, comme présentement, j'entraîne une fille en ski alpin. Fait que là, moi, je vais m'occuper de tout ce qu'elle fait, à part quand elle est sur la neige et qu'il faut qu'elle fasse des entraînements techniques dans des camps en Europe, par exemple. Fait que là, être ici, par exemple, de avril à mi-juillet, je m'occupe de tout son entraînement, soit tout ce qui est en salle, tout ce qui est développement aussi de l'agilité à l'extérieur, du développement de la puissance. Puis quand elle part en camp, là, c'est ses coachs qui s'occupent de ce qu'il faut développer sur les skis. Ensuite, elle revient pour 2-3 mois. On reprend tout l'entraînement 7 jours sur 7 ensemble, à report en camp et tout. Donc, dans l'espace, je dirais, de puissance, là, le kin peut avoir un espace pas mal plus gros dans le développement de l'athlète qu'en sport d'endurance. Mais les deux sont très fun à faire quand même.
Mettons, là, si on compare les deux, c'est quoi le pourcentage de temps qu'une personne dans un sport de puissance va passer en préparation physique dans son année versus en sport d'endurance?
Ah, je te dirais qu'en puissance, là, c'est quasiment du 50-50 d'entraînement technique. Mettons, on parle de ski alpin, je te dirais que c'est 50-50, là, puis peut-être plus du 60-40 en préparation physique. Puis je te dirais qu'en sport d'endurance, là, on tombe plus dans le 80-20. Là. C'est quand même une bonne différence entre les deux. Fait que 80% du temps qu'ils vont passer à développer plus leur volume d'entraînement, leur zone 1, leur cardio, leur vitesse aérobie maximale, etc. Puis 20% qu'on va faire plus prévention de blessures, musculation, etc. C'est quand même un bon gap entre les deux, je te dirais. Oui,
il y a quand même une bonne différence. Mm-hmm. Mais en plus, le ski alpin, c'est un sport dans lequel que tu pratiques pas à l'année au Québec. Là. Il y a des sports, j'imagine, de puissance que tu peux un peu plus t'entraîner tout le temps. En taekwondo, mettons, ça ressemble à quoi?
En taekwondo, je te dirais qu'ils font quand même un niveau de technique technique assez élevée à l'année. Fait que je dirais que ça ressemble quand même à du 60-40%, okay. Je te dirais, là, ouais, à l'année longue. Là. Fait qu'il y a au moins un 3 à 4 bonnes séances de préparation physique où on va développer des choses différentes. Puis ils ont au moins un 4 à 5 entraînements là, spécifiques au taekwondo. Fait que c'est pas mal ça. Je te dirais quand même un 50-50. C'est sûr qu'en ski alpin, là, ben, ça va être plus de préparation physique parce que, comme tu le dis, ouais. À un moment donné, il n'y a pas de neige, je ne peux pas skier.
C'est plus compliqué. Faut que tu restes en forme. C'est plus compliqué un petit peu. Ça ressemble à quoi une journée là, pour toi? Mettons, là, on est en pandémie, là, j'imagine que c'est un peu différent. Tu peux nous en parler un petit peu aussi, mais une journée typique là, quand il n'y a pas de pandémie, pour toi, là, ça ressemble à quoi?
Je peux te parler de ma plus grosse journée de la semaine. Tiens, le mardi, c'est ma grosse journée. Fait que je me lève tôt. Je me lève à 4h45 du matin. Je cours pour aller au PEPS parce que notre salle d'entraînement est au PEPS. À 6h jusqu'à 9h, j'ai deux groupes de triathlon. Fait que je vais être en préparation physique avec les groupes de triathlon. Dépendamment de la phase de l'année, c'est ce qui est intéressant. Mes groupes vont avoir des séances assez différentes. Par exemple, mes skieurs de fond à l'automne, ben, ils ne développent pas les mêmes choses que mes triathlètes à l'automne. Parce qu'à l'automne, mes triathlètes, eux, ils recommencent à s'entraîner de la saison qu'ils ont eue de l'été. Mes skieurs de fond sont dans le pic de leur entraînement, ouais. Là, ils sont dans la finalité. Fait que c'est assez varié, c'est ça qui est le fun aussi. Donc, j'arrive au PEPS, je fais mon 2-3 heures avec le triathlon. Ensuite, j'ai une petite pause. Je vais faire un autre bloc de 2-3 heures avec l'athlétisme, avec mes coureurs. Fait que des athlètes de 100 mètres jusqu'à marathon, je te dirais. On fait de la musculation encore une petite pause. Je vais voir une fille de vélo de montagne dans l'après-midi pour une séance d'une heure et demie, 2 heures de musculation, une petite pause, puis je revois des athlètes d'athlétisme le soir. Fait que ça fait des bonnes journées assez variées, de plein de sports différents. Puis c'est pas comme ça tous les jours, là. Ça, c'est ma plus grande journée, je te dirais. Là. Mais c'est le fun quand même parce que je vois plein de sports différents dans la même journée, dans la semaine aussi. Mes entraînements sont très variés. Le ski développe la puissance à tel moment, mais ouais. Le triathlon sont en prévention de blessures, en retour progressif. Fait que tu sais, c'est toujours, t'es toujours en train de penser à ce que tu vas faire dans ta journée, dans ta semaine, dans ton mois, parce que les entraînements sont très variés, sont très différents. Fait que c'est assez le fun. Puis là, ben, en temps de pandémie, ben, tu le vois, là, on est un mardi, puis je suis à la maison, donc c'est assez différent. Mais comme on se disait tantôt, un petit peu hors d'onde, là, la première vague, le premier arrêt des gyms qu'on a eu, ça a été intéressant parce qu'on a développé nos qualités d'entraîneur Zoom. Fait qu'on faisait beaucoup d'entraînement, je te dirais, en vidéo. Les athlètes embarquaient, c'était le fun. Des séances de yoga, des séances de musculation avec le matériel qu'on a, etc. Fait que ça a comme duré ce temps-là. J'avais quand même un horaire assez chargé à cause de ça, c'était le fun. La deuxième vague, là, les athlètes ont moins accroché au Zoom. Puis la troisième vague, on a juste décidé de ne pas en faire. Donc, malheureusement, c'est juste les athlètes excellence, donc les athlètes qui ont un potentiel olympique, qui peuvent continuer à s'entraîner en salle. On a un petit décret pour eux. Fait que c'est sûr que là, mes journées sont un petit peu moins remplies parce qu'au lieu d'avoir 80-90 athlètes que je vois toutes les semaines sous ma charge, ben là, j'en ai peut-être 5, 6, 7 que je vois individuellement. Fait que, tu sais, ça rend le travail intéressant parce que j'aime beaucoup travailler individuellement avec l'athlète. Je trouve ça vraiment super enrichissant pour lui et pour moi. On a beaucoup plus de fine-tuning, on a beaucoup plus de trucs qu'on peut, des petits détails qu'on ne prend pas attention nécessairement quand on a un groupe de 15 personnes, par exemple. Fait qu'on est capable de travailler beaucoup plus les détails, mais c'est sûr que d'avoir un gros groupe aussi, des fois, c'est le fun. Fait que,
c'est
présentement, je te dirais que ça ressemble à ça, ma journée. C'est un ou deux entraînements max par jour de 1h30 avec les athlètes. Là. Puis le reste, ben, c'est de l'ordinateur de plan maison qu'on essaie de renouveler et de s'émerder un peu avec le matériel.
Avec la 24e version d'un push-up.
Ah, ça c'est le pétrin, honnêtement. On fait ce qu'on peut.
Oui, c'est ça, exact. Tout le monde sait ça, je pense. Tu t'entraînes des gens dans plusieurs sports. En fait, tu es préparateur physique dans plusieurs sports. J'imagine que ça doit comme t'amener des perspectives différentes sur la préparation physique. Je m'explique, là, tu sais, j'imagine que les gens en ski de fond, ils ont comme des us et coutumes qui sont différentes des gens en taekwondo. Puis tout ça, toi, tu les perçois toutes, puis tu reçois ce feedback-là. Est-ce que ça t'aide de voir les différents sports, comment ils s'entraînent, faire des liens entre ça pour redistribuer, si on veut, ce savoir-là dans les autres sports?
Ah, absolument, absolument. Je te dirais, même avec mes collègues, là, je vois mes collègues entraîner d'autres sports. Par exemple, j'ai un collègue qui entraîne un excellent snowboarder. Il y a eu un congé de paternité, c'est un homme. Puis je l'ai remplacé pendant ce temps-là. J'ai vu tout ce qu'il faisait. Ça m'a apporté beaucoup de matériel, moi, pour entraîner mes skieurs de fond. Même si c'est des sports d'endurance, il y a quand même des méthodes que tu peux transférer. Fait que oui, je te dirais qu'il y a beaucoup de choses que tu prends. Même si c'est un sport de combat, tu peux l'amener dans un sport d'endurance sans problème. Il faut juste que tu tunes tes méthodes un peu, que tu la mettes au bon endroit dans ta planification annuelle. Mais oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut retirer de tous les sports, en fait. T'sais, il y a beaucoup de détails techniques qui sont dans certains sports, que la technique, c'est pas important dans d'autres sports, mais que tu fais, ah, mais t'sais, vous devriez peut-être accentuer un peu plus sur la technique du mouvement dans votre sport. T'sais, c'est des trucs comme ça qui font que tu vas chercher des 0,5 %, 1 % d'amélioration, mais que pour un athlète olympique, c'est immense, 1 % d'amélioration.
Ben justement, parlant d'athlètes olympiques, tu as été préparateur physique pour Alex Harvey et l'équipe de ski de fond. C'est quoi les plus beaux souvenirs, si on veut, que tu as de ça? Puis comment tu t'es senti dans ça? J'imagine que c'était extrêmement stimulant.
Maison, tu sais, ça m'a fait. Ben, le premier mot qui vient en tête, là, c'est vraiment du plaisir. Honnêtement, j'ai commencé, j'étais très jeune, j'avais 20 ans. Ils m'ont fait confiance. Ils ont été très généreux de me faire confiance à cet âge-là. J'avais pas beaucoup d'expérience, mais j'ai bâti quand même mon expérience beaucoup à travers les années. Puis ils m'ont amené partout dans le monde. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça m'a fait vivre des expériences incroyables, avec des coachs incroyables, mais avec des athlètes aussi exceptionnels comme Alex, c'est sûr, dans plein de pays. T'es jeune, tu découvres le monde avec du monde intéressant qui ont plein de choses à te partager. Fait que je te dirais que le plaisir, c'est vraiment quelque chose qui vient dans ma tête en premier parce que de toute façon, j'adore ce que je fais encore. Quand j'aimerais plus ça, je ferais d'autres choses, mais pour l'instant, j'adore encore ce que je fais. Fait que je te dirais que c'est ça, c'est le plaisir en premier qui vient à ma tête dans les 15 dernières années que j'ai fait ce travail-là de kinésiologue. Puis ensuite, je te dirais que c'est beaucoup l'apprentissage continuel aussi, parce que plus tu voyages, plus tu rencontres d'autres experts qui sont beaucoup plus calés que toi dans plein de domaines, bien, il y a beaucoup d'humilité qui vient avec ça parce que justement, tu sais, toi, tu es jeune, même si tu es plus jeune, même si tu as 35, 40 ans, 50 ans, tu continues d'apprendre, il y a toujours de la nouveauté qui sort. Fait qu'en voyageant beaucoup, en rencontrant plein de monde, bien, ça te permet de développer beaucoup tes méthodes, d'intégrer beaucoup de choses, d'enlever certaines choses qui sont plus nécessaires à tes plans. Fait qu'il y a une certaine humilité puis un apprentissage qui vient avec ça, qui est constant, qui est vraiment intéressant. Fait qu'il faut toujours rester à l'affût, faut pas s'endormir sur ce qu'on fait, là, t'sais, faut toujours absorber tout, là. Puis ça, c'est, je dirais que tous les voyages que j'ai faits, puis toutes les fréquentations que j'ai eues à travers les années, ça m'a permis de développer ça. Puis sinon, ben, il y a beaucoup aussi, je te dirais, le lâcher prise aussi, parce que, mettons, un kinésiologue, là, c'est pas le. Ben, j'ai été coach pendant certaines années, mais au bout du compte, c'est pas toi qui as la performance de l'athlète à 100 % dans tes mains. Fait, il y a des fois, ça marche pas, des fois, il y a des échecs, il y a des grosses réussites qui t'amènent énormément de joie. Mais il y a des défaites aussi, il y a des échecs qui t'apportent beaucoup d'expérience aussi. Mais il faut que tu réussisses à faire la part des choses, à lâcher prise un peu à travers les succès, les échecs, pour bien évaluer si ce que tu fais, ça a porté fruit. Parce qu'il y a plein d'éléments dans la vie d'un athlète qui peuvent influencer ses résultats, puis qui ne sont pas nécessairement tous reliés à toi, qu'est-ce que tu fais. Donc, c'est tout un processus, je te dirais, d'apprendre tout ça, mais ça, au bout de 15 ans de pratique, tu l'apprends, puis tu fais du mieux que tu peux avec ça.
Ben, depuis tantôt, tu parles, puis je pense que l'expérience, c'est comme quelque chose qui est peut-être, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est sûr que ça apporte beaucoup, là, t'sais, tantôt, on parlait des différents sports que tu as côtoyés, fait que tu as entraîné dans plusieurs sports, mais en même temps, tu as vu le même sport dans plusieurs régions du monde. Puis tout ça, ça te donne un genre de perspective sur ce que tu fais qui est probablement très importante dans tes actions que tu poses maintenant.
Absolument. Je te dirais que l'expérience, là, quand j'étais à l'université, je pensais que les notions théoriques, l'apprentissage universitaire, c'était 100 % ou pas 100 %, mais 80 % du travail. Puis ensuite, c'était de l'application, c'était 20 %. Puis ça allait couler de soi si tu avais des bonnes méthodes, puis si tu avais des bonnes connaissances. Mais en fait, c'est pas ça, là. tu apprends avec les années que, en pratique, quand tu arrives sur le terrain avec des athlètes, c'est du 50-50. C'est tout l'apprentissage théorique que tu as eu. C'est vraiment très important, vraiment très important pour l'appliquer. Mais après ça, tu travailles avec des humains, tu travailles avec des gens qui vont réagir à des méthodes qui ne vont pas nécessairement concorder avec ce que tu as appris. Fait qu'il faut que tu t'ajustes à travers ça. Puis je te dirais qu'au début, j'avais un petit peu, jeune vingtaine, j'avais un petit peu l'arrogance de penser que vu que tu connais tous les principes théoriques, tu allais bien performer. Mais finalement, avec l'expérience, tu te rends compte que non, tu as quelques claques d'en face qui te ramènent à la réalité, qui te disent « OK, non, tu es un être humain, puis là, faut que tu modules tes choses, faut que tu intègres plus de ça, moins de ça, etc. » Fait que je te dirais que c'est vraiment du 50% l'expérience, là. Puis les jeunes kinésiologues, ils ont tout à apprendre encore sur le terrain, c'est merveilleux. Puis apprenez, puis si j'ai un conseil à donner aux kinésiologues en général, c'est de garder l'œil ouvert, garder l'oreille ouverte à ceux qui ont un petit peu plus d'expérience parce qu'ils peuvent vous enseigner beaucoup de choses que vous n'apprendrez pas dans les livres, malheureusement.
Effectivement, ben c'est très bien dit. Puis en fait, ça vaut pour la kinésiologie, mais je pense que ça vaut comme pour la vie en général.
C'est ça, tous les domaines, exactement.
Mais je pratique moins comme kinésiologue que je pratiquais quand j'étais plus jeune, mais c'est les mêmes. Je partage ton point de vue sur l'expérience.
On est dans un domaine où il y a beaucoup de science. Ouais. Fait qu'on peut penser que la connaissance théorique est très, très importante, puis elle l'est, mais il ne faut pas oublier la connaissance pratique du terrain aussi, qui est extrêmement importante, qu'il ne faut pas négliger quand même. Puis ça, quand tu es dans un domaine que la science est très, très, très mise de l'avant, il faut faire attention avec ça pour ne pas être juste... scientiste et juste focusé sur des principes scientifiques, je te dirais.
Effectivement, je suis entièrement d'accord. Là, une des phrases qui me revient, là, c'est une phrase qui est en anglais d'habitude, mais mettons, ça dit l'entraînement de chaque personne, c'est une expérience avec un nombre de sujets qui est égal à 1. Fait que, c'est comme ça veut dire que chaque fois que tu vas faire des interventions, mais tu ne peux pas savoir exactement ce que ça va donner parce que, dans le fond, tu as toujours dans un groupe des gens qui vont bien répondre à quelque chose puis des gens qui vont moins bien répondre. Fait que, dans le fond, il faut toujours être en train de s'ajuster. Là, fait que...
Exact. Je te dirais, un bon entraîneur un bon kinésiologue, un bon préparateur physique, c'est toujours la personne qui va être capable d'amener chaque athlète à son meilleur niveau et ne pas juste appliquer la même recette à tout le monde puis à penser que ça va marcher. C'est facile de faire performer quelqu'un qui est déjà très talentueux au niveau génétique. C'est facile de l'amener à son plein potentiel, mais quelqu'un qui est qui a moins eu le cadeau de la vie d'avoir une génétique d'enfer, ben, de lui l'amener à son potentiel le plus développé, ben, ça prend de la patience, puis ça prend du tuning, puis ça prend des méthodes qui sont plus raffinées que juste des méthodes que tu prends d'un papier ou d'un livre que tu vas mettre sur la personne. Fait que, je dirais qu'un bon kin va amener chacun à son plein potentiel plutôt que de juste appliquer la même recette à tout le monde, puis en casser quelques-uns, puis il y en a un là-dedans qui va bien faire finalement.
Parce que, en fait, ça m'amène à parler un petit peu d'une sélection des cas effectifs. Là, c'est sûr que, dans le fond, quand tu as une certaine méthode et que tu appliques toujours la même méthode, bien évidemment, il y a toujours des gens qui vont passer au travers de ta méthode et ils vont bien fonctionner. Mais dans le fond, peut-être que si tu avais adapté ta méthode à chaque personne, bien, il y a des gens qui auraient aussi bien, sinon mieux performé. Mais vu que ça ne fonctionnait pas avec ta méthode, puis la méthode, c'est la méthode est technique, mais aussi la méthode de savoir-être. Exact. Faut essayer de s'adapter, je pense, le mieux possible à chaque personne puis à chaque athlète. Ça, c'est un...
Si, mettons, je prends un pays comme le Canada, on n'est pas les États-Unis, là, on n'a pas 300 millions de population. Là. Fait que c'est sûr qu'eux, mettons, ils ont un petit peu plus de sportifs, même si le taux d'obésité est très élevé chez eux. Mais ils ont un nombre absolu beaucoup plus élevé de personnes qui pratiquent du sport. Fait que c'est sûr qu'ils peuvent il va en avoir des meilleurs qui vont sortir de ça. Si tu as 100 millions de sportifs, tu vas en avoir un petit peu plus si tu appliques la même méthode. Au Canada, on est 38 millions ou à peine. Ouais. Fait que si tu appliques la même méthode et tu en perds 9 sur 10 à chaque fois, ben tu ne peux pas te permettre ça. Fait qu'il faut que tu essaies de développer chaque athlète à son plein potentiel. C'est pas un choix, mais c'est aussi la beauté du domaine de la kinésiologie et de l'entraînement. C'est que faut que tu t'adaptes, puis il faut que tu essaies de faire de rouler cette recette magique-là, mais de mettre un ingrédient différent pour chacun, pour que chacun performe, justement.
Bien, parlant aussi de ça, bien, toi, tu t'entraînes aussi personnellement. Tu fais de la course à pied, tu fais beaucoup de trails de longue distance, tu fais du ski de fond aussi. Est-ce que tu es ton propre entraîneur?
Je suis mon propre entraîneur, malheureusement, parce que je te dirais que c'est pas la meilleure technique au monde, mais selon mon horaire et tout, j'aime beaucoup savoir beaucoup de liberté dans mon entraînement. Fait que oui, je suis mon propre entraînement, mais je le conseille pas nécessairement à tout le monde, parce que on n'est jamais le meilleur juge de soi-même, quand même.
C'est effectivement très difficile d'être son propre entraîneur, surtout quand. En tout cas, c'est dur d'être juste envers soi-même. Si, je sais pas si
Exact.
tu remarques ça, mais des fois, tu as le goût de comme aller plus loin, des fois, tu as le goût d'aller moins loin. Puis on dirait que ta perception d'entraîneur est influencée par la perception que tu as comme athlète là, en train de faire l'entraînement souvent, là.
Exactement. Je te dirais que le problème, c'est souvent que tu as toujours le goût d'aller plus loin quand tu es ton propre entraîneur, puis il n'y a jamais personne qui te dit de ralentir. Fait que ça, c'est un des gros problèmes, en tout cas pour moi, là.
Puis comment tu réussis à conjuguer ça? Ben là, j'imagine quand tu es ici au Québec, c'est pas si pire, mais quand, mettons, vous faites des voyages puis des choses comme ça, comment tu fais pour conjuguer ton entraînement à toi avec celui de avec ton travail finalement?
Ben, en fait, je dirais que, tu sais, dépendamment avec le groupe que je vais voyager avec, là, je fais beaucoup moins de voyages maintenant avec le ski de fond, mais autrefois, quand je faisais des voyages avec le ski de fond, ben, la majorité de leur entraînement, ça reste de la zone 1, fait que c'est de l'entraînement à basse intensité. Fait que souvent, moi, j'y allais avec eux, puis s'ils faisaient 2 heures, 3 heures de ski, je pouvais skier 2 à 3 heures avec eux. La seule différence, qu'il fallait que je prépare leur ski avant. Puis que je leur donne dans leurs mains avant quand on commence à skier. Fait que ça, c'est la petite chose qui était différente. Mais c'est un excellent moment aussi pour moi de jaser avec l'athlète pour voir comment il va, c'est quoi ses sensations, etc. T'sais, fait que je prenais toujours un moment quand je skiais avec 4-5 athlètes pour aller jaser 15, 20, 30 minutes avec chacun d'eux pour avoir un bon dialogue, pour faire le suivi finalement. Fait que je trouve que c'est une belle méthode pour suivre tes athlètes. Puis sinon, ben, quand je n'avais pas cette opportunité-là, ben c'est sûr que mettons, ils faisaient des intervalles, ben moi, je ne fais pas d'intervalle avec eux parce que j'étais incapable de les suivre. Fait que sur l'heure du midi, tu pars, puis tu vas, pendant que tout le monde dîne, toi, tu pars, tu vas faire ton entraînement, puis tu reviens, puis là, un petit peu de travail de bureau, puis le deuxième entraînement enclenche. Fait que tu repars avec eux, tu conduis, tu vas les porter. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu squeezes un peu chaque entraînement. En voyage, c'est des fois un peu plus problématique parce que l'horaire est plus serré. Quand je suis au Québec, ben, c'est quand même assez facile parce que mes entraînements sont un peu mis à la pièce durant la semaine, là. Donc, j'ai quand même beaucoup de temps, des fois l'après-midi. J'ai un entraînement le soir, mais j'ai tout mon après-midi libre. Fait que je peux aller faire une longue course sans problème. Fait que je te dirais qu'au Québec, c'est vraiment pas quelque chose de problématique, là. Mais en voyage, c'est sûr qu'il faut que tu t'adaptes à ton groupe. Quand je vais avec l'athlétisme, ben, je vais courir avec eux un peu, mais quand ils font des entraînements de piste, je cours pas avec eux sur la piste. Fait que on est avec eux sur la piste, puis après ça, je vais aller jogger juste un petit peu après. Fait que c'est sûr que le temps, des fois, est moins là en camp, mais ça reste des moments extraordinaires que tu passes avec eux dans ces endroits-là qui sont très variés souvent dans le monde, là. Fait que,
Non, c'est cool. T'as-tu des projets sportifs qui s'en viennent, des compétitions ou des trucs que
Ouais,
tu
ben si la
prévois?
pandémie permet, je m'en vais faire un marathon à Las Vegas en avril. Fait que là, je suis en grosse préparation marathon. D'ailleurs, comme je te disais tantôt, j'ai été faire une longue, puis j'ai des belles engelures parce qu'il fait moins 1000 présentement. Je me suis bien détruit la face. Ça, c'est les joies de s'entraîner pour un marathon au Québec l'hiver, je dirais.
Effectivement.
Pardon. Fait que ouais, je m'en vais faire ça. J'essaie de faire un en bas de 2,35, là, mon meilleur temps sur marathon, c'est 2,37, puis je vais essayer de casser ça. Puis après ça, je vais réévaluer si j'ai l'intérêt d'aller plus bas que ça. Parce que, comme on disait aussi tantôt, c'est beaucoup d'investissement de temps. Ça fait mal faire des intervalles, puis faire des semaines de 120 kilos, ça fait mal. Puis c'est le fun, j'adore ça. Mais surtout pour le marathon, c'est quelque chose qui est assez prenant. Fait qu'on verra. Puis après ça, ben, j'ai une belle saison de trail qui s'en vient, là, un 80 km en septembre dans Charlevoix, Arcana. Puis une autre course aux États-Unis, un 100 000. Depuis quelques années, je suis un adepte des très longues distances. Fait que ça va être mon troisième. J'en ai complété un avec succès. Le deuxième, ça a mal été. Puis le troisième, apparemment, c'est souvent des bonnes
C'est le
courses, là.
magique.
Exactement. La troisième,
Nice.
c'est la bonne. Fait que en Arizona, fait qu'en octobre, un autre 100 000, fait que 160 km dans le désert, ça devrait être pas pire. Ça, c'est des très beaux événements parce que c'est pas les événements qui m'intéressent le plus au niveau du plaisir, parce que peu importe ce qu'on pense, sur 160 km, tu n'as pas toujours du plaisir. Hein, tu souffres, puis des fois, tu te demandes qu'est-ce que tu fais là pour vrai. Là. Mais ça va chercher des zones qui sont très loin dans ton cerveau, de résilience, de justement, tu ressens, comme je disais dans un autre podcast là, récemment, tu te sens en vie quand tu fais ça. Tu as mal, mais tu apprends aussi que tout passe. Tout passe, ça revient, mais ça passe. Fait que quand tu n'accordes pas beaucoup d'intérêt à tes douleurs, ça passe. Ça va revenir dans 30 kilos, mais au moins pendant 30 kilos, tu as la paix. Fait que tu apprends beaucoup sur ton corps, sur la physiologie, ta propre physiologie aussi, sur tes états mentaux, comment gérer ça aussi. C'est des événements qui sont très, très intéressants au niveau psychologique et physique. Fait que c'est le fun de les expérimenter en tant que kin sur moi-même puis aller au bout de mes capacités d'endurance, je te dirais.
Oui, ah ben c'est cool. Ben c'est une belle expérience en tout cas, puis je te souhaite beaucoup de plaisir là-dedans, même si je comprends que c'est pas toujours du plaisir. En fait,
c'est 51% plaisir, 49% de non-plaisir, un 100% plaisir. Puis quand tu as une bonne course, ben là, tu es dans les 70-30, on va dire.
Ouais. OK. Ben, tu vois, moi, j'en ai jamais fait. C'est pas, honnêtement, comme je pense le plus long que j'ai couru, c'est 5 heures, là, mettons. Puis c'est en masse. Ça me c'est comme si j'avais pas d'intérêt pour ça. C'est, j'ai pas. Ouais. C'est,
ben, t'es pas obligé. Hein, c'est moi, je respecte autant le gagnant du 100 mètres olympique que le gagnant du marathon. Je trouve que les deux ont fait, même si c'est pas le même investissement de temps, d'effort, c'est deux choses très différentes, ouais. Mais au niveau de la performance humaine, c'est pas la longueur qui fait que c'est plus difficile. Ça va chercher d'autres zones, je te dirais, qui sont intéressantes, mais l'épreuve de 100 mètres est aussi impressionnante que l'épreuve de marathon, puis regarder un 160 kilos dans les montagnes, je trouve ça aussi impressionnant. Je te dirais que c'est vraiment juste pour explorer que je fais ce genre d'épreuve-là, plus que juste pour le plaisir, parce que comme je te disais, le plaisir n'est pas là à 100%.
Ouais, tu me rassures.
Ouais. Puis peu importe ce que les gens vont dire, s'ils disent qu'ils ont 100% de plaisir tout le temps, je pense qu'ils disent un beau petit mensonge quand même.
Genre, c'est sûr. Ben, en tout cas, je pense comme toi.
Exactement.
Ben, merci Charles pour nous avoir partagé ce que tu fais, ton travail et tout ça. Je pense que c'est extrêmement intéressant. C'est un travail qui est peut-être encore un peu méconnu. Là. Je ne sais pas si c'est ce que tu remarques aussi, mais je pense que c'est le temps qu'on commence à en parler un peu plus parce que c'est un rôle qui est important dans le développement d'un athlète qui est de plus en plus peut-être important.
Oui, exactement. Puis tu sais, on n'est pas obligé d'être athlète pour bénéficier des services d'un kin. Un bon kin peut vous faire développer votre force, votre puissance, mais peut aussi aider dans le travail de réadaptation, dans le travail de prévention de blessures. Je parle de course à pied. En course à pied, il y a tellement de blessures. Il y a beaucoup de choses qu'on peut prévenir. Un bon kin va être capable d'adresser ces problèmes-là en vous rendant plus stable ou en vous rendant plus mobile, etc. Fait que c'est sûr que si on est un athlète ou pas un athlète, on va bénéficier du travail d'un bon kinésiologue. Peu importe notre niveau, c'est toujours... Il faut juste prendre un petit peu de temps pour le faire parce que des fois, comme on disait, il fait beau, c'est le fun d'aller dehors, puis bouger, mais quand même, passer une heure à faire des petits exercices là, par semaine, c'est pas un gros investissement de temps pour les bénéfices que ça va te donner plus tard dans ta vie, quand même.
Hey, c'est bien dit, Charles. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Bonne journée.
Salut, là.